L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BT Immo et Castignac, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reprends le micro après mon complice et mon collègue Fabrice Coustet, puisque j'étais sur BFM ce matin où on a parlé d'un sujet majeur qui était celui du logement pour les jeunes actifs, pour les retraités, mais aussi pour les étudiants. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Il est 15h50 passé, on est toujours en direct au Salon des maires d'Île-de-France, seconde journée, édition 2023. Justement, on va parler de ces sujets du logement avec des solutions qui existent, puisqu'elles existent sur le marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler sur le plateau Anne Gobin. Bonjour Anne.
Bonjour.
Directrice générale de l'ARPEJ. On va en parler tout à l'heure pour connaître votre action qui est déterminante et essentielle. D'ailleurs, j'allais dire même que ça devrait être institutionnalisé, voire même constitutionnalisé, pourquoi pas. Raphaël Gilabert est avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Directrice générale des Maisons Marianne, filiale du groupe Atland.
Exactement.
Merci d'être avec nous. Je parlais ce matin justement sur BFM Business dans le Club Immo avec mes collègues de la presse des difficultés du logement étudiant, des difficultés du logement des jeunes, qui est un vrai fléau national. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis plus de 40 ans. J'ai l'âge d'avoir connu ces époques-là. Anne, où en est-on aujourd'hui ? Et j'aimerais aussi, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, le peu de personnes qui ne vous connaîtraient pas, qu'on recontextualise, c'est très à la mode en ce moment, de savoir ce qu'est la mission de l'ARPEJ aujourd'hui.
Alors, ARPEJ, c'est une association de loi 1901, c'est-à-dire sans but lucratif, qui a été créée par l'une des filiales de la Caisse des dépôts, initialement pour gérer des bâtiments pour le Conservatoire supérieur national de musique et de danse de Paris. Donc à l'époque, c'est la SIC qui a construit, mais la réglementation ne permettait pas, quand on était bailleur social, de gérer du logement équipé. Et donc il y a eu une association ad hoc de créer qui s'appelle ARPEJ, ce qui était un jeu de mots très bien pour le conservatoire, Association des résidences pour étudiants et jeunes. Et puis la compétence de gestion de résidence étant éminemment transposable, progressivement l'association s'est développée. Et à ce jour, nous gérons 83 résidences, soit 12 500 jeunes logés. 75% des résidences sont des résidences pour étudiants et 25% sont des résidences sociales pour jeunes actifs. 70 sont en Île-de-France.
70 sont en Île-de-France.
Oui, et 13 en région.
Donc le bassin, c'est vraiment l'Île-de-France.
Hein. L'essentiel est l'Île-de-France. Pour autant, dans le cadre du projet associatif, notre premier projet associatif a été voté en 2018 et le second va être voté là, le 6 juillet 2023. Nous avons un axe de croissance parce que vous le disiez, les jeunes sont tellement à la peine pour se loger que, indépendamment de la croissance en tant que telle, qui n'est pas une finalité, il y a un vrai besoin et donc on se doit de se mobiliser pour les loger. Et donc, dans ce contexte-là, on a un objectif de prise en gestion de 700 logements par an que nous tenons depuis plusieurs années, puisque cette année, nous avons pris 1265 logements. L'année prochaine, ce sera 815. L'année d'après, 920. Et l'année après, plus de 1000 encore.
Le modèle économique de l'ARPEJ, vous vivez sur l'exploitation.
Oui, on vit effectivement complètement du fruit de notre travail.
Absolument.
Et c'est vraiment un cercle vertueux, puisqu'on est quand même sur une équation qui n'est pas toujours simple. Hein. On est entre comment est-ce que l'on parvient, puisque nous sommes locataires de bailleurs sociaux, jamais propriétaires, comment est-ce qu'on parvient à donner un loyer au propriétaire qui lui permette d'équilibrer l'opération et qui nous permette à nous d'avoir une exploitation, sachant qu'on est convaincu chez ARPEJ que ce n'est pas seulement un logement que l'on doit fournir, mais un habitat et un environnement. Comprenez par là que nous avons 9 travailleurs sociaux qui sont salariés de l'association, donc un service social intégré, puisque nous accueillons des jeunes, la moyenne d'âge chez ARPEJ est de 24 ans, sachant que 7% ont plus de 30 ans, alors ça, ce sont ceux qui finissent leurs études, les doctorants, etc., etc. Autant dire que lorsqu'ils arrivent chez nous, ils sont tout jeunes. Pour beaucoup, ils arrivent en direct de chez papa et maman. L'appropriation d'un logement est une grande énigme. Nous avons 55% d'internationaux. Donc là aussi, c'est une vraie rupture. Ils quittent la famille, le pays, les parents. Et puis, ils ont le poids de réussir leurs études en étant loin de tout et de tout le monde. Donc on est convaincu que c'est l'habitat qu'il faut qu'on leur propose, mais aussi un soutien qui est inconditionnel au sein des résidences. et puis créer du lien social. Ils sont tous hyper connectés. Il n'y a pas de sujet sur...
Pour être éligible à l'ARPEJ, est-ce qu'il faut avoir... C'est des conditions de revenus
Oui, des conditions de revenus, du logement social, tout simplement.
Donc il y a un prisme, finalement, chez l'ARPEJ, qui est où vous donnez la possibilité à des personnes qui n'auraient pas normalement les moyens de pouvoir être logées décemment.
C'est complètement ça. D'ailleurs, dans ce contexte-là, c'est le CROUS est très connu pour être sur de l'accueil de boursiers, etc. etc. On est, nous aussi, tout à fait en capacité d'accueillir des boursiers, puisque nous avons des niveaux de redevances qui sont tout à fait compatibles avec des revenus de boursiers. Et d'ailleurs, on a des conventions de partenariat avec les CROUS pour permettre que les jeunes qu'ils n'arrivent pas à loger nous soient réorientés pour permettre d'en loger le plus possible.
Le sujet, il est majeur. Merci Anne d'avoir précisé la mission de l'ARPEJ, extrêmement important. Du côté des maisons de Marianne ou Maison Marianne, alors on connaît Atland, la foncière Atland, une entreprise successful créée par Georges Roquietta, qui d'ailleurs est aussi l'illustration de ce que peut représenter l'ascenseur social dans notre pays. Voilà, famille d'origine italienne, niçoise, et qui s'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ingéniosité. D'ailleurs, s'il nous écoute, on lui fait un clin d'œil, bien évidemment. Les maisons Marianne, quel est le concept? C'est qui? C'est quoi, en quelques mots, Raphaël?
Alors, l'idée date de 2008, donc on est plus jeune que Anne, et c'était de permettre à des publics qui ont aussi des faibles ressources d'être dans un habitat. Donc l'habitat, c'est le logement, mais tout ce qui va autour du logement, d'être dans un habitat qui soit pas cher, à vocation senior, mais pas qu'avec des seniors, avec des familles, avec des couples, avec des étudiants, avec des familles monoparentales, pour rompre l'isolement, pour être dans un vivre ensemble, créer une espèce de mayonnaise où vous êtes chez vous, puisque c'est une maison, donc ils sont chez eux, mais il y a un espace au rez-de-chaussée qui fait 100-150 mètres carrés, où va se passer des cœurs de vie, où ils vont apprendre à devenir voisins, ils vont se rencontrer, ils vont s'engager dans une philosophie du partage, don contre don, ils vont s'échanger des services et on va recréer de la solidarité.
C'est un kibboutz urbain, quoi.
Eh bien, presque, voilà. Ouais.
Et donc, c'est les le jeunes... colcos fleuri. Je caricature un peu, parce que, bien évidemment, je trouve ça remarquable, franchement remarquable, parce que vous avez réuni tous les ingrédients. Vous permettez à des personnes qui n'auraient pas normalement les moyens, à l'instar de ce que vous faites, effectivement, de la même façon, de pouvoir être logées décemment, mais aussi de rompre la solitude dans laquelle vivent notamment les retraités qui sont parfois au bord de la rupture à cause de la chute du revenu lié à la retraite. Parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas parce qu'on est retraité qu'on est forcément riche, on a forcément du patrimoine, etc. Ça serait quand même bien qu'on casse un peu les codes aussi. Et en même temps, vous favorisez l'intergénérationnel.
Exactement ça. Donc chacun, quand ils arrivent dans une maison Marianne, c'est un grand espace vitré. Donc ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce sont nos équipes qui faisons la conception. On vous invite avec grand plaisir. Donc nous avons des architectes en interne qui vont travailler sur la conception. On va travailler justement sur l'aménagement. Ça va être cocoonant. Il va y avoir un espace pour regarder les matchs de foot ensemble, un espace pour cuisiner, faire de la tisanerie, des repas partagés, un espace pour les enfants, pour que les familles monoparentales puissent venir avec les enfants, un espace pour les activités. Et on a justement créé un comité scientifique avec Anne qui nous a rejoint pour amener son expertise, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut développer comme activité pour que chacun soit dans ce vivre ensemble, cette bienveillance l'un avec l'autre, et aussi rester le plus longtemps possible en totale autonomie. Et donc notre comité scientifique nous a dit, ben, il y a trois marqueurs bien-être, je m'arrêterai là. Le premier, c'est prendre soin de soi, donc continuer à prendre soin de soi. Le deuxième, c'est prendre soin des autres, être dans l'altruisme, donc tout ce qui fait que vous êtes dans le partage, la transmission de savoir, le partage de connaissances, c'est super. Et le dernier, c'est continuer à faire travailler son cerveau. Donc on fait aussi des ateliers mémoire, du karaoké, on les oblige à se cultiver, on travaille beaucoup autour de la culture, des sorties, voilà. Et on a 38 résidences ouvertes actuellement.
J'allais faire un peu de littérature, j'allais dire « Ma chère Anne, ne vois-tu rien venir ?» Je dirais plutôt « Ma chère Anne, vous avez lu Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas, bon, c'est pas possible. » Parce que l'altérité, en fait, c'est le regard de l'autre.
Tout à fait.
On prend soin de soi. Pour prendre soin de soi, il faut pouvoir être capable de regarder les autres. Et finalement, si on ne prend pas soin de soi, comment pouvoir regarder les autres? Bien évidemment, et c'est le mystère de l'esprit, en fait. Alors, on a l'impression qu'on conceptualise, c'est vrai, on a l'impression qu'on conceptualise, qu'on théorise, etc. Mais dans la pratique, quand on est sur un marqueur social dans lequel le lieu est aussi le lieu de l'intime, c'est le lieu de l'histoire, c'est le lieu du vécu familial, faire vieillir des personnes dans leur environnement proche, c'est non seulement un signe de bonne santé mentale, mais c'est aussi un signe de vie tout court. Je vais vous donner une statistique. Savez-vous quelle est la moyenne de durée de vie d'une personne qui rentre dans un EHPAD, même pas médicalisé?
18 mois, je crois.
C'est inférieur à 24 mois.
Donc, il y a 700 000 lits d'EHPAD en France actuellement.
Donc, si, Donc, alors je vais faire mon journaliste, hein, je ne peux pas résister, mais vous voulez tuer quelqu'un, vous le mettez en EHPAD.
Est-ce que je trouve... c'est nécessaire, hein, pour certains, alors, c'est nécessaire.
Alors attention.
On est bien
attention.
D'accord.
Il y a EHPAD, alors, attendez, il y a EHPAD et EHPAD. Mais dans ce registre-là, j'allais dire que les substitutions de modèles d'habitat en proximité, les maisons Marianne répondent aussi à cette problématique. C'est ça que je veux dire. Et que je caricature pour bien forcer le trait, bien évidemment, on pourrait avoir en substitution là-dessus. Vous avez souhaité que Anne Gobin soit dans votre comité scientifique. Anne, quand vous rejoignez le comité scientifique d'une entreprise, parce que c'est une entreprise aussi forte, qui travaille sur plusieurs classes d'actifs,
tout à fait.
Quelle est votre démarche pour le faire ? Par rapport à ce que vous faites à l'ARPEJE, c'est quoi ? Vous essayez d'irradier, de faire transférer ?
Il y a deux sujets majeurs, deux axes majeurs. D'une part, j'ai parlé de la vie, de l'habitat, de comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on rompt l'isolement. Et Raphaël en a parlé également. Ce sont des points communs entre nos deux structures, nos deux fonctionnements, avec l'idée de créer des communautés où les gens se sentent bien, où ils soient invités à faire des choses, où ils soient force de proposition. Donc ça, c'est le point commun. Le deuxième axe qui intéresse particulièrement ARPEJE, c'est que par définition, nous sommes du logement temporaire. Lorsqu'un jeune chez nous finit ses études, il y a deux hypothèses, où nous arrivons à lui trouver une place en résidence sociale jeune actif, où c'est terriblement compliqué pour lui en période d'essai. Il y a très peu de jeunes qui arrivent à accéder à un logement, d'autant qu'ils ne sont pas meublés et qu'ils n'ont pas les ressources.
Qu'est-ce qu'ils deviennent après, alors ?
Alors, c'est bien le secret. Hein. Il y a ceux qui repartent chez eux, il y a ceux qui sont hébergés.
Donc, vous ne pouvez pas les garder plus longtemps ?
Mais surtout, ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est qu'il faut qu'ils soient ou étudiants ou jeunes actifs. Et en jeunes actifs, c'est un quart de notre patrimoine. Donc on travaille avec des bailleurs. Pour autant, je suis très très loin de dire qu'on va se coucher par terre et pleurer. Hein. On travaille avec des bailleurs, on cherche des solutions.
Vous ne leur dites pas, bah, écoutez, c'est fini, allez dehors.
Non,
et vous savez qu'il va coucher dehors le soir.
Alors déjà...
On n'en est pas là.
Non, on n'en est pas là. Déjà, la première chose, c'est que quand on les accueille, on commence à travailler la sortie pour les jeunes actifs. Parce que quand on voit la tension du marché, donc on commence à initier toutes les démarches. Après, pour qu'on puisse fluidifier les parcours, puisque c'est bien de cela dont on parle, il faut qu'on ait différentes alternatives. En plus, tous les jeunes n'ont pas envie de faire la même chose en matière d'habitat. Donc, plus il y a d'alternatives, mieux c'est. Et je me dis, et c'est tout le sens de rejoindre les maisons de Marianne, que nos jeunes qui se sentent bien dans un environnement avec des actions collectives, avec une prise en charge, des échanges avec les autres, se retrouver dans un logement banalisé, complètement seul, sans ces espaces collectifs, risque d'être compliqué. Là où du côté des maisons de Marianne, pour continuer à dynamiser les seniors et trouver des équilibres de mixité au sein des résidences, ils ont besoin d'apports de jeunes. Donc on a forcément quelque chose à faire ensemble dans l'intérêt des publics que nous logeons, même s'ils sont chacun à un bout du cycle de la vie.
Finalement, c'est très... Oui, voilà. Ce que je vois, c'est le côté, finalement, stratégiquement, très complémentaire.
Très complémentaire, c'est ça. C'est-à-dire que on ouvre à peu près 7 résidences par an, beaucoup en Ile-de-France.
Combien de bénéficiaires au total sur...
On a 6 000 bénéficiaires actuellement. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que dans nos ouvertures, on est entre 50 et 150 logements hein, par résidence Maison Marianne. Donc, l'idée, c'est de dire que le public jeune qui arrivera pourra aussi animer des ateliers numériques, parce qu'on a mis en place une application Marianne et vous, avec nos seniors. Et on voit que c'est assez compliqué. On a beau avoir nos animatrices qui ont expliqué comment ça fonctionnait, on crée des espèces de binômes entre voisins pour s'entraider. On s'est dit que tout ce public jeune, outre le fait qu'ils vont arriver dans un chez-eux de façon totalement autonome et retrouver cet espace, ce salon de convivialité où ils pourront venir en effet échanger, faire du télétravail, faire du coworking, ils pourront aussi être force de proposition pour animer les ateliers numériques et pour entraîner nos seniors et pas que les seniors, entraîner tout le monde, faire de l'aide aux devoirs, puisqu'on a aussi des enfants. Donc c'est un vrai plus pour nous, ce partenariat qu'on essaye de mettre en place.
Le modèle économique, parce que bon, bien évidemment, pour qu'une activité philanthropique soit-elle ou autre, et là je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai la chance d'administrer une fondation qui s'appelle I Love You, pour le mieux logement justement des jeunes et globalement, il faut trouver un équilibre économique. Comment ça se finance ? Parce que vous avez deux choses, vous construisez les maisons de Marianne, donc ça veut dire qu'il faut trouver du foncier.
Oui.
Est-ce que ce foncier, c'est du foncier public qu'on vous cède parce que vous avez un projet social ? Ensuite, comment vous le financez et quel est le produit dans lequel vous arrivez à dégager ? Parce que ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a des conditions de capacité Et c'est pas, les maisons de mariage ne sont pas réservées qu'à une catégorie client.
Ah non, non, non. Alors c'est tout l'intérêt du groupe Atland, hein, qui est rentré dans notre actionnariat. C'est-à-dire qu'en fait, on a une force de frappe très intéressante. Donc on a tous les développeurs d'Atland et nos propres développeurs.
Je ne parle pas de logement social. Hein, le côté alors, je ne dis pas logement social quand je dis mariage.
Non, on dit habitat solidaire, mais on vend en VFA un bailleur social.
Mais j'aime pas trop, moi, le mot logement social. Bah,
habitat solidaire.
Voilà. Habitat solidaire.
Habitat solidaire intergénérationnel.
Moi, j'aime bien le terme de logement social. Et je trouve dommage qu'il soit au contraire aussi mal connoté. Le logement social, ce n'est jamais que des logements qui permettent à des personnes avec des revenus plafonnés d'intégrer un logement de qualité.
Mais finalement, social ou privé, c'est du logement.
C'est du logement.
Voilà.
C'est
avec le même standard. D'ailleurs, il y a même ce qu'on appelle du logement social.
Mais souvent plus.
Il y a un meilleur standard.
Bien sûr. C'est pour ça que le terme de logement social, au contraire, devrait regagner ses lettres de noblesse.
Alors nous, on dit habitat solidaire parce qu'on a travaillé sur un cahier des charges techniques avec nos architectes où on a mis des exigences en termes d'accessibilité des logements pour qu'on puisse accueillir nos seniors, nos personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite. Et on a un cahier des charges services parce que pour nous, la qualité du vécu est aussi importante que la qualité du bâtiment. C'est les deux qui vont ensemble.
Mais dans la structuration des maisons de Marianne, on a toutes les classes d'âge. L'idée, c'est quand même une mixité à l'échelle Iris de la maison, du style, on a des jeunes... On a de l'intergénérationnel, on a quand même une fraîcheur. Moi, je rentre tranquillement dans un certain âge, je me dis, j'aimerais bien être... C'est vrai.
Mais c'est ce que voulaient nos seniors, c'est de ne pas être qu'entre eux, ils voulaient être avec des jeunes.
Ils veulent être dans leur même environnement et avoir une véritable fraîcheur. Enfin, bref, les vieux, ça les emmerde. Quoi.
À Vauréal, sur 80 logements, j'ai 46 jeunes. J'ai 46 enfants à Vauréal sur 80 logements. Donc je vous rassure qu'on a des jeunes, c'est pour ça qu'on a un espace jeune. Voilà. Donc pour revenir sur le business model, c'est vrai que c'est l'AVEFA, parce qu'on va en état futur achèvement à des bailleurs en bloc, des bailleurs sociaux, qui nous financent nos animations. Et après, on a une redevance que paye le bailleur, donc ça ne coûte rien au locataire. Et on a différents types de financement. C'est-à-dire qu'on a du PLAI, du plus, du PLS, du LLI.
Ok, du BRS éventuellement.
On peut faire du BRS, on peut faire tout ce qu'on veut, du PSLA, du démembrement de propriété. Donc on peut accueillir 80% de la population française.
Les loyers sont réglementés, plafonnés normalement.
Les charges sont normales.
Et l'accessibilité est faite vraiment dans une perspective à la fois démocratique et d'égalité et d'équité sociale.
Et de maintien le plus longtemps possible chez soi. D'accord. Notre moyenne a eu 101 ans.
En zone tendue.
Partout. Alors surtout en zone tendue, parce que c'est là qu'on arrive le mieux à équilibrer l'opération.
C'est là qu'on a un vrai sujet de logement.
Voilà. Mais il y aurait des besoins partout.
Justement, dernière question sur les zones tendues, justement. Est-ce que vous arrivez à maintenir justement la présence d'Arpège dans les zones dans lesquelles il y a vraiment des besoins?
Oui, alors on est essentiellement...
Il y a un sujet foncier, sujet d'autorisation...
Complètement. Alors le sujet foncier, pour Arpège, les opportunités nous arrivent par deux créneaux essentiels. D'une part, les bailleurs sociaux, et c'est à peu près 75% des opportunités qui nous arrivent. Et d'autre part, les promoteurs, c'est 25%.
Donc, ah oui, quand même, c'est 75%, c'est majoritairement...
Majoritairement les bailleurs sociaux. On travaille avec 25 d'entre eux, toutes familles confondues.
Okay.
Et après, nous, on raisonne sur un équilibre global entre le loyer que l'on va fournir et les prix que nous allons pratiquer, qui, bien sûr, sont des prix de logement conventionné. Donc, c'est du loyer plafonné. Je vais illustrer mon propos. La redevance moyenne pour un jeune sur l'Île-de-France pour un 18 mètres carrés est de 520 euros. Dedans, vous avez le logement, les meubles, l'eau, l'électricité, le chauffage, l'Internet et l'assistance par nos équipes de proximité qui sont au sein de la résidence. Puisqu'on a un bureau d'accueil dans chacune des résidences et des passages des travailleurs sociaux.
On a toutes les infos sur Internet, sur le site?
On a toutes les infos sur arpège.fr.
Voilà, www.arpège.fr. Théo Benoît Hambourg va mettre l'URL sur le podcast. Donc si vous voulez naviguer pendant que vous écoutez, allez-y sans aucune difficulté. Les élus locaux vous aident?
Les élus locaux...
Est-ce qu'ils vous donnent du foncier? Ils vous aident? Voilà, ce qu'on fait, c'est bien.
Alors, ils en donnent plutôt aux bailleurs.
Ah oui, voilà, mais ils jouent le jeu.
Mais oui, globalement, ils jouent le jeu. Et je crois pour plusieurs raisons. Lorsque nous arrivons avec nos jeunes, par définition, il n'y a pas besoin d'infrastructures particulières. Ils ne sont pas là de façon durable et ils n'auront pas d'enfants chez nous. Ce n'est pas du tout l'objet, c'est du logement temporaire. Donc, il n'y aura pas besoin d'école, etc., etc., ce qui a toute son importance. Les infrastructures sont généralement au sein des établissements, pour ce qui est du sport, par exemple. Alors, quand on a du foncier, nous, on a des structures externes de sport, parce qu'on est convaincu que c'est aussi un axe d'équilibre, etc., etc. Puis, pour les bailleurs, c'est aussi une population dynamique qui peut contribuer à la vie de la ville. Ça n'a de sens d'avoir une résidence que si elle est intégrée dans la ville. Ce n'est pas Fort Knox. Donc, c'est toutes les passerelles, l'intérêt.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est parce que, par exemple, on peut avoir un élu local qui a un bâtiment obsolète, qu'il donnerait à un bailleur social, qu'il le réhabiliterait et le mettrait en gestion avec Arpège pour l'exploiter en cœur de ville. C'est le cas dans la cité médiévale, par exemple d'Angers, dans lequel il y a une grosse opération. Mais c'est le cas aussi, par exemple, à Cahors, autant des villes dans lesquelles on a des élus locaux très, très volontaristes. On a un site internet pour... Pardon, vous voulez rajouter ?
Oui, oui, ça peut être aussi des transformations de bureaux.
Absolument.
Est-ce qu'on peut appeler... un certain nombre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'urbanisme transitoire ?
Complètement.
Voilà. C'est de l'habitat temporaire qui permet de faire le joint, effectivement, entre la sortie des écoles, des études, et l'accès dans les grandes villes, puisque un des freins majeurs de l'accès au logement, bien évidemment, c'est les difficultés de l'offre. Et d'ailleurs, on ne va pas se cacher, hein, en septembre, il va y avoir un choc systémique sans précédent. On a rarement vu, historiquement, hein, moi depuis 40 ans que je suis dans ce métier, historiquement, je n'ai jamais vu un stock de location privée et sociale aussi bas qu'en ce moment. Il faut juste espérer que les choses se passent bien à la rentrée. Si on peut en savoir plus sur les maisons de Marianne,
Les maisons Marianne.
Attachées.
Oui, maisonsattachées.com.
Voilà, les maisons Marianne.com. L'URL sera sur le podcast. Voilà, on voulait faire un focus sur vous deux. Et je gage, mesdames, qu'on vous reverra avec beaucoup de plaisir sur le plateau de Radio Immo, parce que c'est un dossier que nous défendons. Donc, on sera toujours à vos côtés pour porter haut et fort la parole. Merci, Anne Gobin.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ARPEJ. L'ARPEJ que vous retrouvez, bien évidemment, sur Internet. Raphaël Gilabert, merci d'être avec nous. D'avoir passé ce moment avec nous sur le plateau. Vous êtes la directrice générale des maisons Marianne. Un petit clin d'œil à Georges Roqueta s'il nous écoute. Et vous retrouvez bien évidemment sur le site internet les maisons Marianne. Et vous m'avez invité, je viendrai avec les caméras.
Avec grand plaisir.
J'irai aussi
également,
vous voir avec grand plaisir, puisque la France a aussi un incroyable talent. Et si vous permettez, toutes les deux, je vais faire une petite citation pour conclure cette table ronde. Une maxime de Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui disait qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde. Il y a les crédules qui ne voient dans le monde que ce qui peut être et les incrédules qui ne voient dans le monde que ce qui est. Les premiers, on les appelle parfois téméraires et les deuxièmes, pusillanimes. Sans aucun doute, toutes les deux, vous êtes des téméraires.
Merci beaucoup.
À tout
Merci.
De suite.
Ça nous touche.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.